Bonjour. Le commentaire est consacré à l'épisode de Pinchas qui est scindé en deux. Une première partie que nous avons lue la semaine dernière à la fin de la paracha de Balak et une seconde qui ouvre la paracha de cette semaine, paracha de Pinchas. L'histoire commence tandis qu'Israël se trouve aux lisières du pays de Moab, alors que les hommes d'Israël ont atteint Chittim, ils entretiennent des relations avec des filles de Moab et se prosternent devant les dieux du peuple de Moab, notamment Baal Peor. Cette attitude déclenche la colère divine et Dieu charge Moshe de punir les chefs du peuple et de les pendre ou empaler face au soleil devant le Seigneur, afin que la colère du Seigneur se détourne d'Israël. Moshe obéit à l'ordre divin et c'est à ce moment-là qu'intervient l'histoire relative à Pinchas. Faisant fi des ordres de Moshe, un homme israélite s'empare d'une madianite aux yeux de toute la communauté et la fait entrer dans ce que certains commentateurs considèrent comme une enceinte sacrée, elle a Kouba, mais qui désigne peut-être une tente princière ou une alcôve. Les protagonistes sont ensuite identifiés comme étant Zimri ben Salou, chef de la tribu de Shimon, et la princesse Cosbi bat Tsour. Témoin de cette scène, Pinchas, le petit-fils du grand prêtre Aaron, prend sa lance, pénètre en courant dans la tente et les poignarde tous deux, calmant ainsi la colère divine et mettant fin à la plaie qu'il a suscitée. Une plaie qui a décimé, nous dit la Torah, 24 000 hommes du peuple. C'est sur cette information que se termine la parashat Balak. La plaie cesse suite à l'intervention de Pinchas. Cette intervention produit un autre résultat qui figure dans la seconde partie du récit, dans la parasha de cette semaine. Pinchas est récompensé par Dieu qui semble approuver sa conduite et lui accorde Briti Shalom, une alliance de paix. Lui et ses descendants héritent pour l'éternité de la grande prêtrise. C'est ce dont il s'agit dans les trois versets dont je vais vous lire la traduction. Pinchas ben Eleazar, le prêtre, a détourné ma fureur des Bnei Israël. Il a été animé de mon zèle, ou alors il s'est montré jaloux pour moi envers eux, et je n'ai point exterminé les Bnei Israël malgré ma jalousie. C'est pourquoi, dis-lui que je lui donne mon alliance, une alliance de paix. Elle sera pour lui et sa descendance, après lui, une alliance de prêtrise éternelle parce qu'il a agi avec zèle, ou alors il s'est montré jaloux pour son Dieu et a obtenu le pardon pour les Bnei Israël. La racine polysémique Kana Kufnun Aleph, qui signifie jalousie ou zèle, apparaît 4 fois dans ce court passage. Les commentateurs sont divisés quant à son sens. Rashi traduit par emportement et Abraham ibn Ezra comprend jalousie comme dans l'expression El Kana, un dieu jaloux. Tout cet épisode nous met mal à l'aise, comme ce fut probablement aussi le cas il y a 2000 ans pour les rabbins. Comment comprendre que Dieu accorde à Pinchas la prêtrise alors qu'il s'est comporté comme un justicier et a tué un homme et une femme sans jugement aucun? La Torah considère-t-elle que cette violence est justifiée? En d'autres termes, comment comprendre et intégrer cette réaction induite par une forme de conviction religieuse dans le cadre moral qui est celui du judaïsme et le nôtre? Les différents textes de notre tradition qui abordent cet épisode reflètent un certain embarras face à l'intervention meurtrière de Pinchas, comme nous allons le voir. Le commentaire que je vous propose aujourd'hui est en partie inspiré de 2 études, l'une de David Bernat et l'autre de Jonathan Miller. Examinons tout d'abord le texte biblique. Cet épisode est relaté dans le livre de Bamidbar, notre paracha, mais il est également mentionné dans le livre des Tehillim, Psaume 106, versets 28 à 31. Bien que de style narratif très différent, les deux passages comportent des termes clairement identifiés comme étant de nature juridique. Dans le récit de Bamidbar, Dieu enjoint à Moshe d'empaler Houka, les meneurs, un châtiment souvent réservé au corps des criminels, et il convoque également les juges d'Israël, Shofté Israël, pour qu'ils exécutent le verdict. Dans les psaumes, Tehilim, le verbe vayefalel qui décrit l'action de Pinchas appartient également à la sphère juridique. Bien qu'il soit souvent rendu par intervenir, le verbe pourrait aussi légitimement être traduit comme « Pinchas s'est tenu debout et a jugé ». Selon l'utilisation de la racine « P-Lamed-Lamed » ailleurs dans la Bible. Ces éléments suggèrent une possible analyse via un prisme juridique. Mais l'acte de Pinchas n'est pas de nature judiciaire. Il agit impulsivement en fonction de ce qu'il voit, sans qu'il ne soit fait mention de juge ou de verdict. Les rabbins qui envisagent la réaction de Pinchas à travers le prisme de leur système éthique, moral, d'infraction et de punition sont gênés. L'exécution hâtive et extrajudiciaire de Zimri et de Cosby enfreint les principes rabbiniques fondamentaux de justice, en particulier en ce qui concerne la mise à mort. Les rabbins étaient très stricts en matière de preuves et exigeait que l'on respecte une procédure rigoureuse en cas de jugement pouvant entraîner la peine capitale. Ainsi, le quatrième chapitre de la Mishnah Sanhedrin énumère tous les prérequis dont le but est de rendre plus ardue, moins facile, la condamnation à la peine capitale. Le tribunal doit comporter 23 juges et non seulement 3. Une majorité de 2 voix est nécessaire pour condamner. Et les étudiants juges peuvent présenter également des arguments en faveur de l'acquittement. Le procès ne peut pas se poursuivre la nuit, la condamnation ne peut pas être prononcée le même jour que l'exposé des faits. Toutefois, la Mishnah envisage des exceptions aux règles qu'elle a édictées. Dans le chapitre 9, donc un peu plus loin du traité Sanhedrin, la Mishnah conçoit la possibilité d'une exécution en dehors de tout jugement préalable dans 4 cas précis. L'un d'eux n'est autre que, je cite, « quiconque cohabite avec une femme araméenne, les élateurs le frappent et sous-entendu et le tuent ». En énonçant ce délit, parmi une liste d'autres cas possibles, la Mishnah signifie que ce type d'exécution sommaire infligée par un témoin rentre dans le cadre de la loi. Elle transforme l'acte de justice spontané de Zimri en une catégorie juridique que l'on pourrait appeler exécution zélée. D'autres sources rabbiniques, un peu plus tardives, tendent à transformer cette intervention extrajudiciaire en un acte judiciaire. Elles fondent leur interprétation sur une partie du verset de Bamidbar « Pinchas se leva au milieu de l'assemblée ». D'où se leva-t-il, nous demande Bamidbar Rabba, qui répond « Ils discutaient, les membres du Sanhédrin, et se demandaient si Zimri était passible de la peine de mort ou pas. » On retrouve une interprétation similaire dans le Talmud Yerushalmi, traité Sanhédrin, et également dans le Targum Yonatan. Alors que ces sources justifient la justice expéditive de Pinchas en la transformant en un acte légal, juridique, les sages du Talmud de Babylone, Sanhédrin 82a, sont plus équivoques. Je cite, Rabba Bar Hana a dit au nom de Rabbi Yochanan, s'il demande conseil au tribunal concernant un homme ayant des rapports sexuels avec une non-juive, on ne lui dit pas qu'il est permis de tuer celui qui a transgressé. De plus, si Zimri s'était séparé de la femme et que Pinchas l'avait ensuite tuée, Pinchas aurait été exécuté pour l'avoir tué. En outre, si Zimri s'était retourné et avait tué Pinchas, il n'aurait pas été exécuté pour l'avoir tué, puisque Pinchas tenter de le tuer. La première déclaration s'apparente à un compromis étonnant. Pinhas aurait techniquement le droit d'agir, mais ce n'est pas la bonne ligne de conduite. Les déclarations suivantes visent à le décourager en signalant les dangers auxquels il s'expose. Tuer alors que le moment est passé, ou être tué par Zimri dans une situation de légitime défense, tout ceci vise à dissuader les zélotes de mettre en pratique la règle édictée par la Mishnah elle-même. Le jugement le plus négatif est celui émis par un autre sage dans le Targum Yerushalmi, Sanhedrin 9.7. On a enseigné, ce ne fut pas approuvé par les sages. Pinhas a-t-il pu agir à l'encontre de la vie des sages? Rabbi Yehuda ben Pazi a dit « Il songeait à l'excommunier quand l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, se posa sur lui et dit « Elle sera pour lui et sa descendance, après lui, une alliance de prêtrise éternelle. » Cette vision du Targum Yerushalmi se rapproche d'une condamnation pure et simple de Pinhas, tout en reflétant la tension qui sous-tend l'interprétation des rabbins. On a d'une part, semble-t-il, un héros, le père de la prêtrise, dont l'intervention semble recevoir l'approbation divine. Et d'autre part, les sages concèdent que le comportement de Pinhas va à l'encontre des normes et des principes qu'ils défendent. Son cas est atypique. C'est la raison pour laquelle Pinhas ne peut pas être un modèle et son action ne doit pas constituer un précédent moral légitime. Le zèle ou la vengeance au nom de Dieu est un problème que connaissent toutes les religions. Et c'est bien de cela qu'il s'agit ici, comme l'indique l'expression qui apparaît au début de la parasha de Pinhas, « Bekano et kinati betoham » parce qu'il a agi avec zèle, ou alors il s'est montré jaloux pour son Dieu. Flavius Joseph, qui fut témoin de la destruction du temple, était très mal à l'aise avec cet épisode. Ce que l'on perçoit lorsqu'on lit le récit qu'il en a fait dans son ouvrage « Les Antiquités juives », où il relate à sa façon les événements du Tanakh, la Bible hébraïque. Bien qu'il ait déclaré dans l'introduction qu'il exposera les détails précis des Écritures sans rien ajouter ni omettre, Joseph a délibérément omis certains éléments essentiels du récit de Pinhas. Il a notamment effacé le lien explicite que les versets de la paracha instaurent entre la prêtrise et l'action violente de Pinhas, un lien qui se reflète dans la double alliance que Dieu conclut avec Pinhas à la fin du récit. Joseph omet également tous les termes qui donneraient à l'intervention violente de Pinhas une connotation de zèle pour Dieu, ce qui contraste fortement avec la description du Tanakh où la racine cana, je vous l'ai dit tout à l'heure, être zélé, être jaloux, apparaît 4 fois. Joseph emploie le terme stasis, sédition, pour qualifier la conduite du peuple. Avoir adopté des pratiques païennes ne constitue pas pour lui une offense religieuse, mais une mutinerie, une menace qui met en danger les institutions propres d'Israël, dans la traduction faite par Julien Veil. Ce récit ne peut plus fonctionner comme un récit fondateur de la prêtrise. Ce choix est délibéré. Flavius Joseph ne souhaite pas ancrer la prêtrise dans un épisode marqué par la violence. L'intervention de Pinhas devient une opération militaire héroïque visant à combattre la sédition et à éliminer l'anarchie qui règne dans le camp. Zimri n'a pas été tué pour les multiples transgressions de la loi, mais pour avoir fomenté une sédition. Pinhas est victorieux de son ennemi et son action, ainsi que celle de ses partisans, arrête la plaie. Moshe nous raconte Flavius Joseph, nomme Pinhas stratégone, général à la tête de l'armée pour combattre les Madianites. Tandis que son rôle dans la Torah n'a rien à voir, il consiste à tenir les vases sacrés et les trompettes du Mishkan. Flavius Joseph omet le verset essentiel, l'apogée du récit biblique, la double récompense que Dieu accorde à Pinhas, celle du sacerdoce éternel et celle de l'alliance de paix. Cette omission est frappante, mais elle a un précédent. Dans les Antiquités, Flavius Josèphe ne mentionne pas non plus le récit du veau d'or, qui en Shemotes chapitre 32, qui est en quelque sorte une image miroir de ce passage. Dans cet épisode, les Zélotes qui exercent la punition et donc une forme de violence sont les Lévites dirigés par Moshe. Ils mettent à mort, dit la Torah, 3000 hommes. Si Joseph omet un certain nombre d'épisodes bibliques mettant en scène la violence, ce n'est pas le cas ici. Il décrit la violence de Pinchas, il évoque son statut de prêtre et il ne condamne pas son action. Mais il l'a réinterprétée en réécrivant l'histoire. Il était de loin préférable pour Flavius Josèphe d'attribuer à un personnage héroïque tel que Pinchas, dont il met en avant les qualités physiques et morales, une action militaire contrôlée et socialement acceptable. N'oublions pas que Flavius Josèphe était un prêtre, un commandant militaire. Il était opposé aux zélotes juifs auxquels il a attribué la responsabilité du sac de Jérusalem par ses patrons flaviens, romains. Le malaise de Joseph à l'égard de l'histoire de Pinchas contraste avec l'approche beaucoup plus élogieuse qui imprègne la littérature juive de la période du Second Temple. Des ouvrages tels que Ben Sira ou le Livre des Maccabées et les écrits de Philon d'Alexandrie témoignent d'une vénération pour Pinchas à la fois explicite et implicite. Je ne citerai qu'un seul exemple, celui du Livre des Maccabées qui narre la révolte des fils de Matithiaou, aboutissant à la mise en place de la dynastie hasmonéenne, des Hashmonaïs. Selon le premier livre des Maccabées, le prêtre Matithiaou prend Pinchas pour modèle. C'est ce qu'il note explicitement dans le testament qu'il laisse à ses fils peu avant sa mort, vers -166. Il leur enjoint d'avoir du zèle pour la loi et mentionne Pinchas notre père, pour avoir brûlé d'un zèle jaloux, reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel. Pour Matithiaou, Pinchas n'est pas simplement un modèle théorique, c'est un exemple à suivre. Il se comporte comme Pinchas. Il tue un homme d'Israël qui offre un sacrifice sur l'autel du village de Modi'in, situé au nord-ouest de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il était zélé dans la loi, comme Pinchas l'avait été vis-à-vis de Zimri, fils de Salu. Le livre des Maccabées considère que l'acte de Pinchas est un acte juste, ce qui légitime l'action de Matithiaou. L'équivalence entre Matithiaou et Pinchas est d'autant plus facile à établir que le contexte est similaire. On y retrouve les tensions avec un autre peuple. Là, le peuple de Moab ou de Madian, ici les Séleucides, et le risque de compromission d'une partie de la population avec des non-juifs, qui va de pair avec la remise en cause du culte du Dieu unique. 150 ans plus tard, on retrouve un schéma identique. Au premier siècle de l'ère commune, les successeurs d'Hérode sont perçus par une partie de la population comme des suppôts du pouvoir romain. La Judée est soumise à des tensions au sein de la population juive entre ceux qui refusent tout rapport avec Rome et les autres, mais aussi entre la population juive et les autorités romaines. Parmi les groupes qui s'opposent aux autorités romaines se trouvent les Zélotes, dont les modèles sont Pinchas et les Maccabées. La figure de Pinchas les autorise à prendre les armes et à s'opposer par la force, non seulement au pouvoir dominant non-juif, mais aussi aux juifs qui composent avec ce pouvoir. Une situation de guerre fratricide qui a probablement contribué à la chute de Jérusalem. On est frappé de constater aujourd'hui qu'une situation parallèle semble s'installer dans l'Israël moderne où des groupes extrémistes et violents n'hésitent pas à s'attaquer à leurs voisins et même aux autorités de l'État. En guise de conclusion, je voudrais mentionner la lecture littéraire et psychologique d'Aviva Zonberg qui s'interroge sur la violence de Pinchas, un homme qui a restauré l'ordre religieux au prix d'un acte violent et d'une transgression de la loi. Elle souligne que Pinchas n'est pas le premier de son clan à agir avec violence, une attitude qui semble être un héritage familial. Pinchas est un membre de la tribu de Lévi et son acte fait écho à ceux de ses ancêtres. Tout d'abord, Lévi, le fils de Yaakov, qui avec Shimon a massacré les habitants de Shrem, suscitant la réprobation puis la malédiction de leur père Yaakov. Moshé ensuite, qui a tué l'Égyptien. Et enfin, la tribu des Lévim que nous avons mentionnée précédemment, qui a massacré les adorateurs du Vaudor. Pinchas s'inscrit donc dans une lignée d'hommes impulsifs et violents. Si la Torah indique que Dieu octroie à Pinchas, après le meurtre de Zimri et de Cosbi, une alliance de paix, Brit Shalom, pour John Berg, il ne s'agit absolument pas d'une approbation. Bien au contraire, en octroyant à Pinchas une alliance de paix, Dieu cherche à contenir sa violence. Pinchas a besoin de paix comme d'un antidote. Dieu ne le récompense pas. Dieu soigne Pinchas afin qu'il ne récidive pas. Shabbat Shalom.